Chapitre 21. Malheur à l'homme qui a des pensées divines et qui se souvient de la gloire dans le tabernacle des pourceaux, dit un soir druide revenu d'un pays lointain et qui résumait ainsi toute une intérieure lamentation à propos de Marche Noire et de ses hôtes qui venaient de lui raconter leur aventure. « Assurément, dit Léopold, après notre cher Caïn, tel est le cas de l'île de France, dont nous n'entendons plus parler depuis longtemps. Qu'est-il devenu ?» Un flot de peine et de colère passa sur le livre ouvert du visage de ce bon Lazare. « Ce qu'il est devenu, ah, mes amis, on est heureux de croire à une justice qui n'est pas des hommes. Je dis cela pour chacun de nous, mais ce pauvre bohémond, en vérité, c'est par trop épouvantable. Comment, vous ne savez donc rien ? Ah, c'est vrai, pardon. J'oubliais déjà que vous sortez à peine du gouffre. Eh bien, voici. Il meurt doucement dans les bras de Follentin. » Follentin, ce peintre de plomb, ce grisailleur foireux, ce plagiaire du néant, ce bourgeois envieux et ricaneur qui pense peut-être que l'Himalaya est une idée basse, vous ne savez pas ce qu'il a fait ? C'est bien simple. Il s'est rendu adjudicataire des derniers jours du poète, le client unique de son agonie. Nul ne peut le voir sans son ordre ou sa permission. J'entends, nul de ceux qui seraient capables de l'avertir. Je sais bien que ce que je vous dis là est difficile à croire, mais ce n'est, hélas, que trop vrai, et vous voyez en moi l'une des victimes les plus stupéfiantes et les plus stupéfiées de ce système d'exclusion de tous ceux qui ont véritablement aimé l'île de France. Depuis 2 jours que je suis à Paris, j'ai bien fait une dizaine de tentatives à l'hôpital des frères Saint-Jean-de-Dieu, son dernier domicile vraisemblablement, jusqu'à l'heure où on le portera au cimetière. Obstacles invincibles, portes infranchissables, c'est tout juste si mes cris d'indignation ne m'ont pas fait jeter dans la rue. « Mais, mon cher Lazare, interrompit Léopold, êtes-vous dans votre bon sens ? On ne confisque pas ainsi les personnes ? La séquestration illégale ? Dans un lieu public ? Voyons, mon ami, un peu de lumière. » « Patience, vous allez voir clair. À moins cependant que les larmes ne vous aveuglent. L'île de France est un séquestré volontaire, un séquestré par persuasion. Oh, cela remonte à plusieurs mois. La dernière fois que nous le vîmes ensemble, un peu avant mon départ, vous vous en souvenez, il se sentait déjà gravement atteint. Ce dut être environ le temps où Follentin se manifesta. Ces tableaux ont beau être exécrables, sa conquête de l'île de France est un chef-d'œuvre, décidément. Vous savez, si notre ami le méprisait, l'abhorrait. Certains mots de lui sur ce vitrier sont à faire peur. On n'imaginera jamais 2 êtres aussi contraires, aussi parfaitement antipathiques l'un à l'autre. Mais que voulez-vous ? Bohémond, quoi qu'on ait pu dire, est surtout un sentimental. N'ayant pas comme Marche Noire ou comme vous, Léopold, une règle rigide, un credo que n'ont pu faire plier les siècles, faussé par l'hégélianisme et saccagé par les curiosités les plus dangereuses, parfois incroyablement privé d'équilibre, on l'a toujours vu sans résistance contre tout individu assez habile pour se prévaloir hypocritement d'un service réel ou d'un acte de bonté feinte. L'esquisse est ferme, dit Léopold. Il m'a semblé pourtant qu'il y avait en lui un railleur d'une rare vigilance qu'il ne devait pas être aisé de surprendre. D'accord, mais je crois que vers la fin, cette faculté s'est émoussée. Quel que soit son mal, il meurt surtout de lassitude. Il était vraiment trop peu fait pour les négoces de ce monde, et la misère contre laquelle il fut toujours désarmé l'avait aux 3/4 détruit. Rappelez-vous ces inconcevables absences, l'impossibilité de fixer son attention quand il parlait à ses fantômes. La seule réalité pour lui, je n'ai connu que Marche Noire qui put quelquefois dompter un instant sa chimère, et encore. Puis faites-y bien attention. Follentin est un dénicheur de merles très subtil qui sut arriver au bon moment. Il s'empara d'abord d'un pauvre garçon très dévoué à l'île de France et qui le voyait sans cesse. Celui-là, criminel sans le savoir, mit une si niaise persévérance à lui vanter les qualités d'âme du peinturier, tout en faisant le meilleur marché possible de ses ridicules ou de ses infirmités d'esprit, que Bohémond finit par craindre de s'être trompé sur le personnage et consentit à le bien venir. Follentin, qui n'est pas avare, sut déployer un tact infini pour lui faire accepter des services d'argent, dont il savait que le besoin était fort pressant, n'attendant pas que le malheureux rêveur avouât ou trahît son embarras, dépassant même le désir secret de ce pauvre, avec une bonhomie, une rondeur parfaite. Le moyen était infaillible et réussi au-delà de toute espérance. Bref, abusant de la double détresse physique et intellectuelle de sa victime dont il paraissait être le bienfaiteur, il parvint, à l'instar d'une maîtresse basse et jalouse, à éloigner tous les amis anciens, quoi qu'ils puissent faire, et réussit, Dieu sait par quelle pratique de mensonge et de perfidie, à lui en inspirer l'horreur. C'est par la volonté formelle de Bohémond que je n'ai pu arriver jusqu'à lui. Or, cela n'est rien, ou presque rien. Écoutez la suite. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que je n'ai pas dû accepter facilement la consigne. Pour tout dire, j'ai tenté de pénétrer de force. C'est alors qu'on a fait donner la garde. À mon épouvante inexprimable, j'ai vu se dresser une abominable souillasse qui m'a déclaré n'être pas une moindre personne que la comtesse de l'Île-de-France, épouse légitime et in extremis du moribond, dont elle rinça 10 ans le pot de chambre et qui, naguère, dans un soir d'ivresse ou de folie, lui avait fait un enfant. N'ayant déjà presque plus de force et parfaitement isolé de tous ceux qui eussent pu penser à sa place, il avait fini par céder aux obsessions pieuses de Follentin qui ne lui laissa pas entrevoir d'autre moyen de légitimer ce fils qu'il lui eût été si facile de reconnaître sans prostituer son nom à la mère. J'ai pu comprendre que l'aumônier de l'hôpital, religieux d'une bonne foi indiscutable, mais qui fut en cette occasion admirablement roulé, se chargea lui-même d'emporter les résistances dernières. J'ai donc pris la fuite, et me voici noyé de chagrin, suffoqué par le dégoût. Un silence lourd suivit ce récit. À la fin, Clotilde murmura, comme se parlant à elle-même, « Rien n'arrive en ce monde que Dieu ne le veuille ou ne le permette pour sa gloire. Nous sommes donc forcés de penser que cette chose laide est en vue de quelques résultats inconnus et certainement adorables. Qui sait si le passage terrible de la mort ne sera pas rendu facile à ce pauvre homme par cette immolation préalable de ce qui était le principe de sa vie terrestre? Mais les menteurs se trompent eux-mêmes. Je ne serais pas étonné que M. Follentin crût avoir fait une action louable. » Hercule Joly, présent et silencieux jusque-là, intervint alors. « Monsieur Druide, je suis parfaitement étranger au monde des artistes et j'ignore tout de leurs passions ou de leurs mœurs. Voulez-vous me permettre une question? Quel a pu être le mobile de ce M. Follentin? Et quel a pu être son intérêt à désoler ainsi l'agonie de M. de l'Île-de-France? Il est inconcevable qu'il ait voulu jouer gratuitement le rôle d'un de ces démons dont c'est l'emploi de désespérer les mourants. » Brusquement, Léopold se leva. « C'est moi, dit-il, qui vais vous répondre, à la marche noire, si je le peux. Vous êtes un chrétien, monsieur Joly, et je le crois un homme de prière. Je n'ai donc pas à vous apprendre la définition sublime du catéchisme. L'envie est une tristesse du bien d'autrui et une joie du mal qui lui arrive. Nos psychologues peuvent déposer leurs analyses le long de ce mur, ils n'entameront pas le granit et le bronze d'une pareille démarcation. Il y a quelques années, je me présentai un jour chez Follentin, qui n'était pas encore le personnage radieux qu'il est devenu. À mon arrivée, il achevait la lecture d'un journal qu'il jeta sur la table comme s'il se débarrassait d'une couleuvre, avec cet air d'ennui suprême et ce sourire à donner des engelures que vous lui connaissez, mon cher Lazare. Voici, en propres termes, ce qu'il crut devoir me dire. Quand une de ces feuilles me tombe sous la main, je vais tout de suite à l'article nécrologique et, si je n'y trouve pas le nom de quelqu'un de mes amis, j'avoue que je suis très désappointé. Depuis, je n'ai pu le voir ni entendre prononcer son nom sans me rappeler ce mot, bien plus spirituel qu'il ne le croyait lui-même, car son âme en fut éclairée pour moi dans ses profondeurs immortelles. Et je la vis en plein, son âme affreuse, telle qu'elle sera sous des cieux nouveaux dans 10 000 siècles. Il est fort possible, comme vient de le dire ma femme, qu'il ait cru faire, dans le cas de Bohémond, une chose héroïque. Il s'est donné certainement beaucoup de mal, et son désintéressement absolu n'est pas douteux. Le vrai envieux est le plus désintéressé, quelquefois même le plus prodigue des hommes. Il n'y a pas de divinité aussi exigeante que l'idole blême. L'Île-de-France est sans doute celui de tous les contemporains qui a dû le plus lui crever le cœur. Les disparates signalés, il y a quelques instants par Druide, étaient entre eux infinis. Le très haut poète qui va mourir, qui meurt peut-être à cette minute, paraissait avoir reçu tous les dons, la beauté, le génie, la noblesse, l'absolu courage, la sympathie expansive et toute puissante. Ses facultés imaginatives et lyriques en activité permanente et qui faisaient penser à ces feux errants du Livre Saint. Mais surtout, la promptitude archangélique de ses épigrammes, qui ne s'en souvient. On peut à peine se figurer combien toutes ces choses déchirèrent un homme profondément disgracié, que les circonstances mettaient très souvent en face de son lumineux repoussoir. Il s'est vengé hideusement, ainsi qu'il lui convenait de le faire, et je crois en effet qu'il a dû déployer une habileté, une persévérance de démon. Le résultat en valait la peine, songez donc, amener ce signe noir que fut Bohémond, ce dernier représentant d'une race fière, d'une lignée quasi royale, à donner, fût-ce dans le crépuscule de l'agonie, à une tireuse de cartes de l'avoir, son nom magnifique. Le contraindre à finir comme un libertin gâteux subjugué par sa cuisinière. Quelle revanche! Vous verrez, mon bon Lazare, que nous ne pourrons même pas assister à son enterrement. Sans vous, je n'aurais même pas su que le pauvre garçon était mourant. En supposant qu'on daigna nous aviser officiellement de la cérémonie funèbre, ce qui est au moins improbable, il nous faudrait, n'est-ce pas, défiler à la façon des Sarmates vaincus dans le cortège du triomphateur, marcher dans les larmes de la douairière, entendre en crevant de honte et de rage les discours humides où il sera parlé de l'ami de la dernière heure. Non, vraiment, j'aimerais mieux, dussé-je me condamner à la famine, payer d'humbles messes pendant tout un mois dans notre église solitaire. Chapitre 22. À ce moment, on sonna, et Léopold cessa de parler pour aller ouvrir. Mais s'approchant de la porte du jardin, il entendit les pas d'un individu qui prenait la fuite. En même temps, à l'extrémité de la rue, éclata le rire monstrueux de la Poulot. Était-elle donc venue tout exprès? C'était peu probable. Et au fond, il n'importait guère qu'elle fût venue pour cela ou pour autre chose. Mais ce rire néfaste, ce hennissement de rosse apocalyptique, dont on commençait à perdre l'habitude et qui fit s'ouvrir toute grande plusieurs fenêtres, s'enroula bizarrement au pilastre de la nuit dans l'air sonore. Il eut des soubresauts, des rebondissements, des à-coups, des reculs de grelin dans la rainure, de soudaines reprises, des élans, des bonds furieux. Puis il s'alanguit et déferla quelque temps encore dans un mode si funèbre que des chiens hurlèrent. Cela, sous un ciel splendide, sous des étages d'étoiles, sous le poids effrayant de tous les silences de l'espace, à la minute même où on était plein de cette pensée qu'un des êtres les plus nobles qu'il y eut au monde allait mourir, impressionna singulièrement les quatre auditeurs du pavillon diffamé. « J'ai bien souvent entendu ce rire, » dit Clotilde, « et il m'a toujours fait horreur. Mais ce soir, il a quelque chose que je ne sais définir. C'est pour moi comme si la malheureuse n'était plus parmi les êtres à la ressemblance de Dieu, et qu'en châtiment de quelque crime, dont elle cherchait à s'étourdir en nous insultant, elle se trouva maintenant un peu au-dessous de ces animaux à qui elle fait peur. Ne vous semble-t-il pas, messieurs, que son rire est l'expression la plus affreuse du désespoir ?
Il me semble surtout l'expression de la démence, qui n'a certes rien de comique ni de rassurant, fit observer bonnement Hercule Joly.
Je crains, reprit Clotilde, de vous paraître moi-même une insensée, mais je ne puis m'empêcher de vous dire ce que j'éprouve en ce moment. Il est bien certain que l'espace et le temps n'existent pas pour les âmes, et que nous sommes dans une ignorance infinie de ce qui s'accomplit autour de nous, invisiblement. Dans le délire de ma maladie, j'ai vu des êtres épouvantables qui riaient ainsi de me voir souffrir, qui me désignaient cruellement d'autres malades sans nombre, des moribonds, des agonisants lamentables, jusqu'au bout de la terre. Et il m'était dit qu'il y avait entre tous ces malheureux et moi une correspondance, une relation mystérieuse. Eh bien, je songe à celui de nos amis qui lutte cette nuit contre la mort. Et je me demande si ce que nous venons d'entendre n'est pas un avertissement. Oui, mes amis, je me demande avec terreur si ce ricanement horrible n'est pas un glas. S'il n'existait pas, de Monsieur de l'Île-de-France à cette créature d'en bas, un fil spirituel analogue au lien de chair dont on a voulu garrotter ces dernières heures. Et si chacun d'eux, à cette même seconde, ne tombe pas dans le gouffre qu'il a choisi.
La voix de la femme de Léopold était changée, et les derniers mots furent dits comme si elle avait été jetée hors d'elle-même. Druide, livré à une commotion extraordinaire, se souvint alors d'avoir entendu autrefois le bon Cagougnol affirmer qu'elle avait réellement quelque chose d'une prophétesse. Les langues devinrent silencieuses et les cœurs pesèrent autant que le monde. La nuit, d'ailleurs, était avancée. On se sépara, et Clotilde, offrant à la fois ses deux belles mains à ses deux hôtes, leur dit, avec une douceur étrange, cette phrase étrange qui semblait continuer son rêve. « La vie, chers amis, c'est la main ouverte, et la mort, c'est la main fermée. » Ensuite, elle pria longtemps, avec une grande charité, pour les vivants et pour les défunts, et dans son sommeil, elle vit un pain qu'elle partageait aux misérables. Ce pain, au lieu de jeter de l'ombre, jetait de la lumière. Le lendemain, on apprit que l'Île-de-France était morte pendant la nuit, et que la Poulot, complètement folle, avait été enfermée à Sainte-Anne, section des agités, pour n'en plus sortir que les deux pieds en avant et le cou tordu. Léopold se prépara tranquillement à paraître devant Dieu.
Chapitre 23. C'est demain le terme d'octobre. On le payera sans doute, comme on a payé les autres.
Avec quel argent? C'est Dieu qui le sait. Tout ce que les créatures peuvent savoir, c'est que, depuis la fondation de Rome, dont les 12 tables féroces livraient le mauvais payeur à son créancier pour le vendre ou le mettre en pièces, il ne s'est assurément jamais rencontré une chienne plus implacable que la propriétaire de Léopold. La voici justement assise devant son prie-Dieu, un peu en avant de Clotilde et de Léopold, venue pour entendre la grand-messe. Elle a déjà certainement répandu des actions de grâce très abondantes et remercié le Seigneur de n'être pas une publicaine. Enfin, ce qu'il y a de sûr et de consolant, c'est qu'elle ne peut pas mordre tout de suite. À chaque jour suffit son tintouin, est-il dit dans le discours sur la montagne. Un prêtre vint de monter en chaire. Ce n'est pas le curé, personnage vertueux, sans indiscrétion ni fureur, qui, interrogé un jour par Léopold sur les sentiments religieux de sa paroisse, lui fit cette réponse. « Oh, monsieur, il n'y a ici que de très petites fortunes. » Et qui ne vint pas une seule fois consoler ses brebis nouvelles quand elles étaient dans les affres de leur supplice. Non, ce n'est pas lui. C'est un vicaire humble et timide par qui fut administrée Clotilde. Celle-ci le regarde avec une grande douceur et se prépare à l'écouter. Qui sait si ce serviteur inutile ne va pas lui donner précisément le secours dont elle a besoin? Quelle occasion, d'ailleurs, de parler à des pauvres, à des gens qui souffrent. Ce dimanche est le 21e après la Pentecôte, on vient de lire l'évangile des deux débiteurs. Le royaume des cieux est comparé à un roi, lequel voulut faire compte avec ses serviteurs. Et quand il eut commencé à faire compte, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et d'autant qu'il celui n'avait de quoi payer, son seigneur commanda que lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait fût vendu et que la dette fût payée. Par quoi ce serviteur, se jetant en terre, le suppliait, disant « Seigneur, aie patience envers moi et je paierai tout. » Ah donc le seigneur de ce serviteur, ému de compassion, le lâcha et lui quitta la dette. Mais quand ce serviteur fut parti, il trouva un de ses compagnons en service, qui lui devait 100 deniers, lequel il saisit et l'étranglait, disant « Paie-moi ce que tu dois !» Et son compagnon en service, se jetant à ses pieds, le priait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout !» Mais il n'en voulut rien faire, un s'en alla et le mit en prison, jusque à temps qu'il eût payé la dette. Voyant ses autres compagnons ce qui avait été fait, furent fort maris, dont s'en vinrent et narrèrent à leur seigneur tout ce qui avait été fait. Lors son seigneur l'appela et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai quitté toute cette dette, pourtant que tu m'en as prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon en service ?» ainsi que j'avais eu pitié de toi. » A donc son seigneur courroucé, le bailla au sergent, jusqu'à ce qu'il lui eût payé tout ce qui lui était dû. Quel texte à paraphraser! La veille du jour où on étrangle les pauvres diables. Tous les administiés, tous les libérés, tous les propriétaires du pays sont là. Et il ne serait peut-être pas absolument impossible d'atteindre la conscience de quelques-uns. Mais le vicaire, qui est lui-même un pauvre diable, et qui a la consigne générale de ménager les ventres pleins, tourne court sur l'étranglement et interprète la parabole, si nette pourtant, si peu évasive, par le précepte infiniment élastique de pardonner les injures. Noyant ainsi dans la confiture sacerdotale de Saint-Sulpice l'indiscrète et désobligeante leçon du Fils de Dieu. Alors, un nuage tombe sur Clotilde qui s'endort. Maintenant, c'est un autre prêtre qui parle. « Voilà l'évangile, mes frères, et voici vos cœurs. Du moins, j'ose présumer que vous les avez apportés. Je veux être persuadé que vous ne les avez pas oubliés au fond de votre caisse ou de vos comptoirs, et que je ne parle pas seulement à des corps. Qu'il me soit donc permis de leur demander à vos cœurs s'ils ont compris quelque chose à la parabole qui vient d'être lue. Absolument rien, n'est-ce pas ? Je m'en doutais. Il est probable que la plupart d'entre vous avaient assez à faire de compter l'argent qu'ils recevront ou qu'ils pourront recevoir demain de leur locataire et qui leur sera très probablement versé avec d'intérieures malédictions. Au moment où il est dit que le serviteur exonéré par son maître prend à la gorge le malheureux qui lui doit à lui-même une faible somme, les mains de quelques-uns ou de quelques-unes ont dû se crisper instinctivement, à leur insu, ici même, devant le tabernacle du Père des pauvres. Et quand il l'envoie en prison, sans vouloir entendre sa prière, « Oh, alors !» Sans doute vous avez été unanime à vous écrier dans vos entrailles que c'était bien fait et qu'il est vraiment fâcheux qu'une pareille prison n'existe plus. Voilà, je pense, tout le fruit de cet enseignement dominical que vos anges seuls ont écouté avec tremblement. Vos anges, hélas, vos anges graves et invisibles, qui sont avec vous dans cette maison et qui demain seront encore avec vous quand vos débiteurs vous apporteront le pain de leurs enfants ou vous supplieront en vain de prendre patience. Les pauvres gens, eux aussi, sont escortés de leurs gardiens et d'ineffables colloques auront lieu tandis que vous accablerez de votre mécontentement ou de votre satisfaction plus cruelle ces infortunés. Le reste de la parabole n'est pas fait pour vous, n'est-ce pas ? L'éventualité d'un seigneur qui vous jugulerait à son tour est une invention des prêtres. Vous ne devez rien à personne. Votre comptabilité est en règle. Votre fortune, petite ou grande, a été gagnée le plus honorablement du monde. C'est bien entendu. Et toutes les lois sont armées pour vous, même la loi divine. Vous n'avez pas d'idole chez vous. C'est-à-dire, vous ne brûlez pas d'encens devant des images de bois ou de pierre en les adorant. Vous ne blasphémez pas. Le nom du Seigneur est si loin de vos pensées qu'il ne vous viendrait même pas à l'esprit de le prendre en vain. Le dimanche, vous comblez Dieu de votre présence dans son église. C'est plus convenable qu'autre chose. C'est un bon exemple pour les domestiques et cela ne fait, au demeurant, ni chaud ni froid. Vous honorez vos pères et mères, en ce sens que vous ne leur lancez pas, du matin au soir, des paquets d'ordures au visage. Vous ne tuez ni par le fer ni par le poison. Cela déplairait aux hommes et pourrait effaroucher votre clientèle. Enfin, vous ne vous livrez pas de trop scandaleuses débauches. Vous ne faites pas des mensonges gros comme des montagnes. Vous ne volez pas sur les grandes routes où on peut si facilement attraper un mauvais coup. Et vous ne pillez pas non plus les caisses publiques, toujours admirablement gardées. Voilà pour les commandements de Dieu. Il est à peu près inutile de rappeler ceux de l'Église. Quand on est dans le commerce, comme vous dites, on a autre chose à faire que de consulter le calendrier ecclésiastique. Et il est universellement reconnu que Dieu n'en demande pas tant. C'est une de vos maximes les plus chères. Donc, vous êtes irréprochable, vos âmes sont nettes, et vous n'avez rien à craindre. Dieu, mes frères, est terrible quand il lui plaît de l'être. Il y a ici des personnes qui se croient des âmes d'élite, qui s'approchent souvent des sacrements, et qui font peser sur leurs frères un fardeau plus lourd que la mort. La question est de savoir si elles seront précipitées aux pieds de leur juge avant d'être sorties de leur épouvantable sommeil. Les impies se croient héroïques de résister à un tout-puissant. Ces superbes, dont quelques-uns ne sont pas inaccessibles à la pitié, pleureraient de honte s'ils pouvaient voir la faiblesse,
la misère, la désolation infinie de celui qu'ils bravent et qu'ils outragent. Car Dieu, qui s'est fait pauvre en se faisant homme, est en ce sens toujours crucifié, toujours abandonné, toujours expirant dans les tortures. Mais que penser de ceux-ci qui ne connurent jamais la pitié, qui sont incapables de verser des larmes, et qui ne se croient pas impies? Et que penser enfin de ceux-là qui rêvent la vie éternelle en bras de chemise et en pantoufles au coin du feu de l'enfer? Je vous ai parlé des locataires pauvres dont cette paroisse est suffisamment approvisionnée et qui tremblent déjà en songeant à ce que vous pouvez leur faire souffrir demain. Ai-je parlé à une seule âme vraiment chrétienne? Je n'ose le croire. Ah, que ne puis-je crier en vous, sonner l'alarme au fond de vos cœurs charnels, vous donner l'inquiétude salutaire, la sainte peur de trouver votre Rédempteur parmi vos victimes. Ego sum Jesus, quem tu persequeris, est-il dit à saint Paul, fumant de rage contre les chrétiens, qui étaient alors comme les locataires de la cité du démon, et qu'on pourchassait de gîte en gîte, l'épée ou la torche dans les reins, jusqu'à ce qu'ils payassent de tout leur sang le logis permanent des cieux. Je suis Jésus, que tu persécutes. On sait que ce maître s'est souvent caché au milieu des indigents, et quand nous faisons souffrir un homme plein de misère, nous ne savons pas quel est celui des membres du Sauveur que nous déchirons. Nous avons appris de même saint Paul qu'il y a toujours quelque chose qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, et que ce quelque chose doit être accompli dans les membres vivants de son corps. « Quelle heure est-il, Père ?» disent à Dieu ces pauvres enfants tout le long des siècles, car nous veillons sans savoir ni le jour ni l'heure. Quand finira-t-on de souffrir ? Quelle heure est-il à l'horloge de votre interminable passion ? Quelle heure est-il ? C'est l'heure de payer ton terme, ou d'aller crever dans la rue parmi les enfants des chiens, répond le propriétaire. Ah, Seigneur, je suis un très mauvais prêtre. Vous m'avez confié ce troupeau dormant et je ne sais pas le réveiller. Il est si abominable, si puant, si totalement affreux pendant son sommeil. Et voici que je m'endors à mon tour, à force de le voir dormir. Je m'endors en lui parlant, je m'endors en priant pour lui. Je m'endors au lit des agonisants et sur le cercueil des morts. Je m'endors, Seigneur, en consacrant le pain et le vin du sacrifice redoutable. Je m'endors au baptême, je m'endors à la pénitence, je m'endors à l'extrême onction, je m'endors au sacrement de mariage. Quand j'unis, pour votre éternité, deux de vos images engourdies par le sommeil. Je suis moi-même si appesanti que je l'ai béni comme du fond d'un songe et que c'est à peine si je ne roule pas au pied de votre autel. » Clotilde se réveilla au moment où l'humble prêtre descendait de la chaire. Leurs regards se rencontrèrent et parce qu'elle avait le visage baigné de larmes, il dut croire que c'était son prône qui les avait fait couler. Il avait raison, sans doute, car cette voyante était tombée à un si profond sommeil qu'elle pouvait bien avoir entendu les vraies paroles qu'il n'avait osé prononcer que dans son cœur. Chapitre 24. Léopold et Clotilde sont au cimetière de Bagneux. C'est toujours pour eux un apaisement de s'y promener. Ils parlent aux morts et les morts leur parlent à leur manière. Leur fils Lazare et leur ami Marchenoir sont là, et les deux tombes sont cultivées par eux avec amour. Quelquefois, ils vont s'agenouiller dans un autre cimetière où sont enterrés Cagougnols et l'Île-de-France. Mais c'est un long voyage, souvent impossible, et le grand dortoir de Bagneux, qui n'est qu'à 10 minutes de leur maison, leur plaît surtout parce qu'il est celui des plus pauvres. Les lits à perpétuité y sont rares, et les hôtes, chaque 5 ans démaillotés de leurs planches, sont jetés pêle-mêle dans un ossuaire anonyme. D'autres indigents les talonnent, pressés à leur tour de s'abriter sous la terre. Les deux visiteurs espèrent bien qu'avant ce délai, avant l'échéance de cet autre terme de loyer, il leur sera possible de donner une dernière demeure plus stable à ceux qu'ils ont tant aimés. Eux-mêmes, il est vrai, peuvent mourir d'ici là, que la volonté de Dieu soit faite. Il restera toujours la résurrection des morts, qu'aucun règlement ne saurait prévoir ni empêcher. L'endroit, d'ailleurs, est aimable. L'administration parisienne qui a condamné l'usage antique de la croix monumentale, au moment même où elle en multipliait dérisoirement le signe dans le quadrillage systématique de ses cimetières suburbains, a du moins consenti à planter le long des avenues un assez grand nombre d'arbres. Au commencement, cette plaine géométrique et sans verdure désespérait. Maintenant que les arbres plus vigoureux ont pu plonger leurs racines dans le cœur des morts, ils tombent d'eux avec leur ombre mélancolique une douceur grave. Combien de fois par semaine, dès l'ouverture des portes, Léopold ne vient-il pas, allant de l'une à l'autre des deux sépultures, arrachant les herbes sauvages, les cailloux, redressant ou guidant les jeunes tiges dont il écarte les insectes, joyeux de trouver une rose nouvelle, une capucine, un volubilis fraîchement éclos, les arrosant d'une main très lente et oubliant l'univers, s'attardant des heures, surtout auprès de la petite tombe blanche de son enfant, auquel il parle avec tendresse, auquel il chante à demi-voix le Magnificat ou l'Ave Maris Stella, comme autrefois quand il le berçait sur ses genoux pour l'endormir. Et c'est une chose qui remue l'âme des passants de voir ce chanteur à la face tragique et pleine de pleurs, prosterné sur ce berceau. Clotilde vient de le rejoindre et le trouve dans cette posture. « Oh, mon ami, lui dit-elle, que nous sommes heureux d'être des chrétiens, de savoir que la mort existe si peu, qu'elle est en réalité une chose qu'on prend pour une autre, et que la vie de ce grand monde est une si parfaite illusion. » À la naissance de Jésus, les anges ont annoncé à tous les hommes de bonne volonté la paix in terra, sur terre ou en terre. Tu m'as enseigné toi-même ce double sens. Regarde cette tombe chrétienne, sur presque toute il y a ces mots « requiescat in pace ». Ne penses-tu pas que c'est ainsi que nous pouvons entendre la parole sainte ? Le repos, mon bien-aimé, le repos, n'est-ce pas le nom de la vie divine ? Que sont les gestes des hommes en comparaison de cette vie puissante que l'Esprit-Saint tient en réserve sous la terre, parmi les diamants et la vermine, pour le moment inconnu où seront réveillées toutes les poussières ? Ce moment, répond Léopold, est l'espoir unique. Job l'appelait il y a 46 siècles, les martyrs l'ont appelé dans leur tourment, et la mort est douce à ceux qui l'attendent. Tous deux vont çà et là au milieu des tombes. Beaucoup sont incultes, abandonnés tout à fait, arides comme la cendre. Ce sont celles des très pauvres, qui n'ont pas laissé un ami chez les vivants, et dont nul ne se souvient. On les a fourrés là un certain jour, parce qu'il fallait les mettre quelque part. Un fils ou un frère, quelquefois un aïeul, a fait la dépense d'une croix, puis les 3 ou 4 convoyeurs ont été boire et se sont quittés sur de pochardes sentences, et tout a été fini. Le trou comblé, le fossoyeur a planté la croix à coups de pioche et a été boire à son tour. Aucun entourage n'a jamais été ni ne sera jamais posé par personne pour marquer la place où dort ce pauvre qui est peut-être à la droite de Jésus-Christ. Sous le poids des pluies, la terre s'est affaissée et les pierres sont sorties en si grand nombre que même les chardons ne peuvent y croître. Bientôt, la croix tombe, pourrie sur le sol. Le nom du misérable s'efface et n'existe plus que sur un registre de néant. Léopold et Clotilde ont grande pitié de ces oubliés. Mais ce qui les navre de charité, c'est la foule des petites tombes. Il faut visiter les vastes nécropoles de la banlieue de Paris pour savoir ce qu'on tue d'enfants dans les abattoirs de la misère. On y voit des lignes presque entières de ces couchettes blanches surmontées d'absurdes couronnes en perles de verre ou de médaillons de bazar où s'affirment des sentimentalités exécrables. Il y en a pourtant de naïves. De loin en loin, dans une sorte de niche fixée à la croix, sont exposés, avec la photographie du petit mort, les humbles jouets qui l'amusèrent quelques jours. Souvent, Léopold a vu s'agenouiller devant l'une d'elles une vieille femme désolée. Elle était si vieille qu'elle ne pouvait plus pleurer, mais sa plainte était si douloureuse que les étrangers qui l'entendaient pleuraient pour elle.
Chapitre 25. Note du donneur de voix. Il s'agit ici d'une longue citation entièrement latine du chapitre 7 du livre 4 des Révélations célestes de Sainte Brigitte. Deinde sponse videbatur, quod quasi locus quidam terribilis et tenebrosus aperiebatur, in quo apparuit fornax ardens intus. Et ignis ille nihil aliud abebat, ad comburendum nisi daemones et viventes animas. Supra vero fornacem istum, apparuit anima illa cuius judicium iam in superioribus auditum est. Pedes vero anime affixi fuerunt fornaci, et anima stabat erecta quasi persona una. Non autem stabat in altissimo loco, sed in infimo, sed quasi in latere fornacis, cuius forma erat terribilis et mirabilis. Ignis vero fornacis videbatur se traere sursum infra pedes anime, sicut quando aqua trait se sursum per fistulas, et violenter comprimendo se ascendebat super caput, in tantum quod poris tabant sicut vene currentes cum ardenti igne. Aures autem videbantur quasi sufflatoria fusorum, quae cerebrum totum cum continuo flatu commovebant. Oculi vero eversi apparebant et immersi, et videbantur ad occiput intus esse affixi. Os quoque erat apertum, et lingua extracta per aperturas narium, et dependebat ad labia. Dentes autem erant quasi clavi ferrei affixi per palatium. Brachia vero ita longa erant, quod tendebant ad pedes. Manus quoque ambe videbantur abere et comprimere quandam pinguedinem cum ardenti pice. Cutis vero, quae apparebat supra animam videbatur abere formam pellis supra corpus, et erat quasi lintea vestis circumfusa spermate, quae quidem vestis sic erat frigida, quod omnis qui videbat eam contremuit. Et de illa procedebat sicut sanies de ulcere corrupto sanguine, et fetor ita malus, quod nulli pessimo fetori in mundo posset assimilari. Visa itaque ista tribulatione,
audiebatur vox de illa anima, quae dixit quinque vicibus, ve, clamans cum lacrimis totis viribus suis.
Revelationum celestium sancte Birgite, liber quartus, caput septimus.
L'Esprit du Seigneur ne se promène pas seulement dans les cimetières. Ceux qui le connaissent peuvent se rencontrer partout, fût-ce en enfer, et il dit lui-même que le feu marche devant sa face.